Alors bonsoir ou bien bon après-midi. Je crois que tout le monde a bien mangé. Et bienvenue à ce séminaire dont le titre, c'est les dons de prophétie. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé, eh bien, aux dons de prophétie en tant qu'étudiant de la Bible, jeune, et nous devons comprendre c'est quoi le don de prophétie. Il faut dire vraiment que je n'aurai pas de temps d'entrer en profondeur, d'étudier le sujet avec vous en profondeur, parce que c'est un vaste sujet. Seulement, j'ai apporté un document, j'ai fait un résumé de tout cela, et vous allez avoir à la fin vraiment de ce séminaire, eh bien, donc le résumé de ce qu'on va faire. Et vous connaissez très bien mon nom, le prénom c'est Vaillant, et le nom de famille c'est Youth. C'est pas un nom très connu en Haïti pour un Haïtien, mais c'est Youth. Alors, je suis né avec Youth. Alors, et bienvenue. Donc, je suis directeur des ministères personnels au niveau de la Fédération du Québec et puis ensuite de l'École du Sabbat. Et puis, je suis un évangéliste. Vous connaissez tout, vous avez lu tout. Donc, avant de commencer, donc on va prier. Parce que si on va parler de la Bible, c'est la prière qui doit être au cœur de cette étude-là. On va se mettre debout, on va demander à Boubacar de prier pour nous. Oui, c'est ça. Il faut dire vraiment que c'est un sujet très fascinant, le don de prophétie. Et qu'est-ce qu'on va faire vraiment dans ce séminaire? On va voir vraiment le rôle et des prophéties, du don de prophétie dans la Bible. Surtout dans l'Église adventiste, nous avons un héritage. On parle souvent vraiment du don de prophétie à travers les écrits d'Ellen White. Et très souvent, les membres, eh bien, ont des difficultés. Il y a d'autres, il y a certains qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Tandis que, vraiment, ça fait partie du début, vraiment, du mouvement adventiste. Eh bien, dans ce séminaire, nous allons essayer de voir le rôle que le don des prophéties a joué dans la Bible. Et la question que j'ai posée, vraiment, est-il nécessaire pour les peuples de Dieu d'avoir les dons des prophéties? Nous allons voir dans ce séminaire-là, est-ce que c'est nécessaire? En tant que jeunes, est-ce qu'on a besoin d'un don de prophétie tandis que nous avons la Bible? Si nous avons la Bible, on n'a pas besoin d'autre chose parce que normalement, la Bible est suffisante. Alors, on va faire vraiment ce parcours. Tout d'abord, nous allons voir l'objet de notre étude. La première partie, c'est le sens des mots don spirituel dans la Bible. Vous allez voir, eh bien, donc la différence, est-ce qu'il y a une différence entre don spirituel et le don des prophéties? Nous allons comprendre mieux vraiment les choses. En premier lieu, c'est ça qu'on va étudier. En deuxième lieu, c'est don spirituel dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a le don, les dons spirituels, eh bien, dans l'Ancien Testament? Parce que normalement, donc, nous avons deux testaments. Et ensuite, un don spirituel dans le Nouveau Testament. Et après ça, qu'est-ce que les dons des prophéties? Le parcours, l'esprit de prophétie dans les livres de l'Apocalypse. Surtout, l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, quand l'ange dit à Jean, eh bien, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, nous allons faire ce parcours. Et ensuite, deuxième partie, nous allons voir la cause de la grande déception du 22 octobre 1844 dans le mouvement adventiste. Qu'est-ce qui a provoqué cette grande déception? Pourquoi, à un moment donné, le 22 octobre, on a annoncé le retour de Jésus-Christ? C'est une hypothèque que nous avons en tant que jeunes adventistes. Et quand on regarde dans l'histoire, on dit dans ce mouvement, on a donné la date du retour de Jésus-Christ et Jésus-Christ n'est pas venu, tout ça, etc. Et comment expliquer ça? Donc, nous allons voir ça. Et ensuite, les dons de prophétie dans le mouvement adventiste avant la déception du 22 octobre 1844. qui veut dire le mouvement avant cette déception de 1844, eh bien le mouvement a reçu les dons des prophéties. À ce moment-là, nous allons voir le rôle. La manifestation du don aux prophéties, eh bien après la déception du 22 octobre 1844, qui veut dire avant la déception, eh bien donc le mouvement a reçu les dons des prophéties et après la déception aussi, eh bien les dons des prophéties continuent dans ce mouvement-là. Donc, et pourquoi a-t-on besoin du don des prophètes, du don des prophéties, disons, pourquoi? Alors, là, étant donné que la prophétie, le don des prophéties est essentiel, donc, à l'épanouissement du peuple de Dieu, et comme je dis, vraiment, donc, vous allez, nous n'aurons pas de temps vraiment de tout dire, mais c'est maintenant, j'ai résumé tout cela, le cheminement systématique avec les textes de la Bible. Après ces cours, eh bien, vous allez, ces séminaires, vous allez avoir un document. Que dit la Bible au sujet du don des prophéties? Puisque la Bible, c'est la norme de notre vie spirituelle, est-ce que la Bible parle du don des prophéties? Le don des prophéties est l'un des dons spirituels dans la Bible. Il faut dire vraiment que le don des prophéties, c'est un don spirituel. Ça fait partie vraiment du don spirituel. Et pour comprendre son importance, il faut connaître l'essence des mots, eh bien, spirituels. Des mots, dons spirituels, il faut comprendre ces mots-là. Et c'est pour cela que dans notre première réflexion, nous allons étudier l'essence des mots, dons spirituels dans la Bible. C'est très important qu'il faut connaître dons spirituels pour comprendre les dons des prophéties. C'est une expression qui est utilisée, employée une seule fois dans la Bible. Il faut dire les dons spirituels que vous voyez dans votre traduction des Bibles, eh bien, est mentionné une seule fois dans la Bible. Combien de fois le don spirituel est mentionné? Une seule fois. Nous allons voir. Alors, dans le texte original. Alors, ici, l'apôtre Paul l'utilise dans Romains chapitre 1er et le verset 11. Voilà ce que Paul dit. C'est le seul texte qui mentionne les dons de prophétie. Eh bien, dans les écrits de Paul. Alors, vous allez voir l'expression. Je parle de l'expression. Paul dit aux Romains, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Regardez bien, l'apôtre Paul voulait communiquer les dons spirituels, quelques dons spirituels, eh bien, aux chrétiens et aux chrétiens de Rome. Comment l'apôtre Paul pouvait attribuer communiquer ce don spirituel, ce qu'il voulait dire, c'est à travers la prédication de l'évangile, quand les gens ont reçu l'évangile, l'Esprit de Dieu va donner les dons spirituels, eh bien, à ces gens-là. Alors, qui veut dire, c'est la première fois qu'on a trouvé cette expression, les dons spirituels. Étant donné que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est en grec, parce que la civilisation grecque, c'est comme l'anglais d'aujourd'hui, c'est la civilisation universelle. Pour que Dieu parvienne, atteigne vraiment les gens, Dieu a permis que sa volonté, a été écrite dans le Nouveau Testament, dans la langue grecque. Qu'est-ce que Paul a utilisé dans Romains chapitre 1er verset 11? Nous avons trouvé cette expression charisma pneumaticon. Nous pouvons répéter ensemble. Charisma pneumaticon. Alors ici, charisma, nous allons étudier charisma, c'est très important. Alors d'où l'expression don spirituel. Charisma pneumaticon signifie don spirituel. Alors vient de deux mots grecs. Don spirituel vient de deux mots grecs qui sont très importants, très utilisés dans le Nouveau Testament. Le mot grec est don est charisma. Alors ici, charisme qui vient du mot charis. C'est ce mot charis qu'on traduit par grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous pardonne, eh bien, le mot grec charis signifie ce qui est plaisant. Ce qui est plaisant, charme. Une grâce, eh bien, c'est un élément charmant. Amabilité, grâce, formule de salutation, grâce, etc. Vous allez trouver tout ça dans les documents, donc pas de problème, mais vous pouvez prendre note quand même. Alors ici, le mot charisma, qui vient de charis, ça signifie grâce accordée, don charisme. Que signifie charisme? Eh bien, charisme, charisme, c'est la grâce accordée, eh bien, ou bien don, quand on dit vraiment quelqu'un a du charisme. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de dire, de faire quelque chose. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu, c'est un pouvoir. La grâce de Dieu, c'est une puissance. Parce que la grâce de Dieu transforme. Quand on est touché par la grâce de Dieu, on est transformé. C'est pourquoi vraiment la grâce de Dieu, c'est une puissance. Quand on dit vraiment quelqu'un, eh bien, cette fille, Milka, a du charisme. Elle est capable d'amener les gens, eh bien, donc avec elle. Alors qu'il veut dire vraiment, elle a vraiment un certain pouvoir pour entraîner les gens. Que Dieu, le grand pouvoir de Dieu, c'est sa grâce. Voilà, le pouvoir de Dieu, c'est sa grâce. Alors, l'expression, eh bien, il y a, nous allons trouver, puisque nous avons étudié le mot charisma, qui est le don, eh bien, le mot spirituel, parce que c'est une expression, don spirituel, charisma, c'est le mot don, et ensuite, spirituel, c'est le mot pneumatikos. Alors, qui veut dire, ici, le mot pneumatikos signifie spirituel. Qu'est-ce que signifie spirituel? Signifie agir, animé, marqué par l'esprit. Quand on dit quelqu'un est spirituel, ce quelqu'un-là devrait être agi selon l'esprit, être animé du Saint-Esprit. On peut être pieux, on peut pratiquer vraiment des choses religieuses, on n'est pas spirituel. Tant que l'esprit de Dieu ne nous conduit pas, ne nous anime pas, on peut avoir une forme. On peut avoir une forme adventiste, depuis qu'on te voit vraiment, c'est une adventiste, et pourtant l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Il y a toute une affaire de différence. Qui veut dire vraiment, quand on dit une personne est spirituelle, c'est une personne qui est animée du Saint-Esprit, contrôlée par le Saint-Esprit. D'où l'expression être rempli du Saint-Esprit. C'est contrôlé, mené, dirigé par le Saint-Esprit. Avoir les dons spirituels, c'est avoir un charisme que le Saint-Esprit communique. Vous comprenez? Alors, c'est le Saint-Esprit qui donne vraiment ce charisme, eh bien, pour pouvoir accomplir des choses. D'où l'expression don spirituel ou des dons de l'Esprit. On peut traduire ça de différentes façons, soit don spirituel ou bien don de l'Esprit, eh bien, signifie la grâce que l'Esprit de Dieu accorde à une personne pour accomplir une mission pour Dieu. Le don spirituel que le Saint-Esprit communique est toujours pour accomplir une mission. Le don spirituel n'appartient pas à un individu en propre ou bien pour notre famille. C'est toujours pour la communauté. C'est toujours pour la société. Alors, c'est très important, le don spirituel. Par exemple, quand on nous donne vraiment le don spirituel, le don de chanter, c'est pas pour vous. C'est justement pour pouvoir communiquer la parole de Dieu, les bienfaits de Dieu à d'autres personnes. Alors, tu veux dire, j'ai trouvé vraiment cette citation dans le grand dictionnaire de la Bible que je demandais aux jeunes des BH. Bah, depuis, ça fait 2 ans, on fait vraiment une classe de lecture de la Bible pour étudier la Bible à Montréal. Eh bien, donc, qu'est-ce que je fais là? Ok. Alors, je donne vraiment donc cette citation. Il dit, nous appelons dons spirituels des manifestations de l'Esprit de Dieu accordées dans des événements ponctuels ou de façon continue en vue d'équiper les croyants pour les servir de Dieu et de son peuple. Qui veut dire, lorsqu'on a les dons spirituels, c'est Dieu qui veut nous équiper pour l'épanouissement, pour Dieu d'abord et pour son peuple. C'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Alors c'est vraiment pour l'ensemble, pour le peuple de Dieu en tant que tel. Don spirituel dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a vraiment le don spirituel dans l'Ancien Testament? Il faut dire vraiment que l'expression don spirituel n'est pas utilisée dans l'Ancien Testament. On ne trouve pas le mot don spirituel dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on trouve vraiment le don, le mot, l'expression don spirituel dans l'Ancien Testament? Non. Le mot, l'expression don spirituel ne se trouve pas. Parce que le mot grec charismata, pneumatika, que l'on traduit par don spirituel, sont absents dans la version de la Bible grecque Septante. Combien de personnes qui connaissent vraiment qu'il y a une version grecque de l'Ancien Testament qui s'appelle Septante? Il y a 2, 3? Ok. Vous savez très bien, au deuxième siècle, troisième siècle, les Juifs ont perdu vraiment les langues hébraïques. Et à ce moment-là, on a traduit l'Ancien Testament, c'est la première version de la Bible de l'Ancien Testament. Eh bien, on a traduit par 70 érudits juifs, savants juifs. C'est pour ça qu'on appelle la Bible 70. Le mot 70 signifie 70. Que signifie le mot 70? 70. Qui veut dire la première version de l'Ancien Testament. La première traduction de l'Ancien Testament. Et c'est là que vous allez trouver vraiment la Torah jusqu'à Malachie. Et ensuite, il y a d'autres livres qu'on a inclus vraiment dans cela. Lorsque, personnellement, j'ai vraiment j'ai ces textes-là avec moi, à la maison, j'ai essayé vraiment de comparer si on trouve vraiment dans quel mot charisma, charismata, pneumatica, c'est pluriel. Alors, qui signifie don spirituel? Eh bien, donc, cette expression est absente. L'acte, cependant, nous avons trouvé les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que les dons spirituels, ce sont des actes du Saint-Esprit parmi le peuple de Dieu. Qu'est-ce que signifie vraiment don spirituel? Ce sont les actes du Saint-Esprit dans la vie et bien d'un individu pour édifier le peuple de Dieu. Ça va? Alors, les dons spirituels décrivent les actes du Saint-Esprit pour accomplir la mission de Dieu. Mais est-ce qu'on a trouvé les actes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Certainement, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est accordé à des personnes en situation d'autorité. Par exemple, le roi. En direction. Eh bien, par exemple, à un artisan. Vous connaissez Bethsaléel? Et qui était un artisan pour travailler dans les sanctuaires, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit pour pouvoir travailler dans les sanctuaires. Écoutez bien, c'est du matériel. Mais le texte dit vraiment que Dieu lui a donné la sagesse, le savoir-faire et son attitude aussi pour pouvoir travailler. Ça, c'est un don spirituel. C'est un don, et les dons de l'Esprit. Alors, nous avons aussi des chefs, des rois et des prophètes. Dans quel but que Dieu a donné vraiment ces charismes-là, ces dons-là? C'est pour accomplir des tâches que Dieu, eh bien, les a confiées. Alors, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent, qui veut dire qu'il y a des actions du Saint-Esprit. Mais, le Saint-Esprit était limité, d'une façon limitée. C'est pas tous les croyants dans l'Ancien Testament qui possédaient le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'était les principaux dirigeants pour diriger le peuple. La promesse est faite dans la nouvelle alliance où tous les croyants allaient recevoir le don du Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, non, c'était vraiment des dirigeants, des prêtres, des sacrificateurs, des rois et ensuite des prophètes qui avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Les anciens, c'était eux qui avaient reçu. Alors, l'Ancien Testament annonce l'arrivée d'une nouvelle alliance dans laquelle les rôles et les fonctions du Saint-Esprit seront élargis. Mais dans l'Ancien Testament, le rôle du Saint-Esprit n'était pas élargi à l'époque. Alors, justement, pour bien comprendre, au cœur même de l'Ancien Testament, regardez la promesse pour dire vraiment la nouvelle alliance qui va venir. C'est pour ça, vraiment, on a les textes, il dit, « Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. » Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, qui veut dire même les esclaves croyants. Et dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Ça, c'est la promesse qui a été faite. C'est justement au 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette promesse, eh bien, a été faite à la communauté croyante. Eh bien, c'est très important qu'il faut souligner le mot « après cela ». D'après vous, qu'est-ce que ça signifie après cela? Hein? Après cela. Hein? Qu'est-ce que j'ai avant? Et pourtant, dans l'expression hébraïque, c'est le futur. C'est le futur. Après cela, c'est le futur. Ok, nous allons expliquer ça. Alors, vous allez apprendre des choses là. Regardez bien, le mot hébreu qui est traduit par après cela signifie dans la suite des temps. Daniel a utilisé ça. Une période future. Qui dit, voilà, ce qui va arriver. Alors, il faut gratter la tête. Hein? Parce que le jeûne... Alors, ce même mot-là dit en arrière. Pour les Hébreux, en arrière, c'est le futur. C'est même le futur. C'est pas le passé. pour comprendre tout. Alors, écoute bien. On continue. On va dire, dans l'Ancien Testament, la suite des temps fait référence à l'expression du Nouveau Testament dans les derniers jours. Effectivement, dans la Bible, ce temps, c'est le mot eschaton. Eschaton, c'est pas le passé. C'est le futur, c'est la fin. Alors, pourquoi c'est le futur? Parce que c'est la fin. La fin qui va venir, c'est pas de cette époque-là. Mais cependant, c'est quelque chose qui va venir dans l'avenir. Parce que le mot qu'on traduit, et si vous lisez vraiment dans la Bible, Semer a fait vraiment une note pour dire, après cela, indique une période future, l'avenir, la fin. Parce que le mot, tout à l'heure, nous allons voir. Et écoutez bien, la Bible va nous dire, est-ce que j'ai raison ou si je n'ai pas raison? Vous allez voir. Alors, regardez bien. Dans l'Ancien Testament, la suite des temps, comme on dit, l'apôtre Pierre dit que la prophétie de Joël 2, versets 28 à 29, est accomplie lors de l'événement du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors, l'Esprit de Dieu donne des dons spirituels aux croyants de la Nouvelle Alliance. Regarde bien comment Pierre a interprété après cela. Regarde bien, dans le livre de Joël, qu'est-ce qu'il dit? Après cela, je répandrai mon esprit. Comment, selon l'Esprit de Dieu, Pierre a utilisé ça dans les derniers jours? Regarde bien, après cela est interprété par dans les derniers jours. Quand tu dis après cela, je répandrai mon esprit, en d'autres termes, dans le futur, la communauté du peuple de Dieu va recevoir la puissance de cet esprit, les dons des prophéties. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Ça va ou non? Ok. Alors, regardez, l'interprétation, la prophétie, eh bien, de Joël qui dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, même les serviteurs. Pierre, selon l'Esprit de Dieu, pendant la Pentecôte, il dit, après cela, je répandrai. Voici l'accomplissement, c'est dans les derniers jours. Et les derniers jours commencent avec qui? Avec Jésus-Christ. N'oubliez pas. C'est Jésus-Christ qui a marqué. L'arrivée de Jésus-Christ a marqué la fin des temps, les derniers jours. Qui veut dire vraiment la période qui reste, eh bien, est plus petite vraiment que le nouveau. Regarde bien ici. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La même prophétie. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit et prophétiseront. Et puis l'apôtre Pierre dit, combien qui avaient reçu le Saint-Esprit pendant ces jours de la Pentecôte? Combien? 120. Qui veut dire tous les croyants. Parce que les 120 constituaient. Vous pouvez lire ça vraiment dans Actes chapitre 1er et le verset 15. Vous allez trouver vraiment les 120 qui étaient dans la chambre haute avaient reçu. Toute la communauté. Si c'était vraiment dans la première alliance, c'est seulement Pierre qui allait recevoir ça. Parce que dans la première alliance, c'était seulement les dirigeants, les leaders du peuple de Dieu. Maintenant, regardez dans la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance est liée à la mort de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, va accorder la puissance de cet esprit à tous les croyants, petits et grands. C'est ce que la prophétie de Joël a annoncé. C'est pas ça? C'est pas ça qu'on a vu? Hein, dans Joël? Oui ou non? Oui? Petits et grands, etc., il n'y a pas d'âge pour être guidé, animé par la puissance de cet esprit. Ça va? Donc, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ok. Donc, ici, le don, on continue. Et c'est ça? Ok. Alors, le mot grec charismata, pneumatica, sont utilisés au singulier une seule fois nous avons déjà parlé de ça. Dans tous les autres passages, l'apôtre Paul n'utilise pas vraiment le mot charismata, mais pour parler des dons spirituels, eh bien, l'apôtre Paul a utilisé un mot, un pneumatica. Dans le Nouveau Testament, Paul a utilisé l'expression « don spirituel » pour décrire les actes du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Qu'est-ce que ça signifie? Qui veut dire, dans tous les autres passages de Paul, Paul va utiliser « pneumatikos » comme « don » parce que ici, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui domine le don. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don spirituel. On peut avoir un talent naturel, tout le monde, du cas Dieu a créé l'homme pour ça, etc. Mais pour accomplir le plan du salut, le plan de la rédemption, il faut recevoir le Saint-Esprit qui communique cette grâce, ce pouvoir, cette grâce, et bien ce don pour accomplir vraiment cette tâche-là. Maintenant, dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, le don de prophétie est le premier don mentionné. Selon l'apôtre Paul, c'est le don de l'esprit par excellence. Alors, on n'aura pas le temps de lire vraiment tous les textes. Maintenant, la question qui nous intéresse, puisque nous sommes des adventistes, on parle vraiment du don de prophétie chez nous. Qu'est-ce que le don de prophétie? Qu'est-ce que le don de prophétie? Si je vous pose cette question-là, vous savez déjà le don de prophétie? Et généralement, quand on parle vraiment du don de prophétie, on voit les écrits de Ellen White. C'est pas ça? C'est ça, parce que c'est ce qu'on dit dans les églises. On n'a pas fait une étude d'une façon approfondie, vraiment, du sujet. On voit automatiquement les écrits d'Ellen White. Mais c'est pas ça, le don des prophéties. OK? Alors ici, dans la Bible, un don est une grâce accordée par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, un don, c'est quoi? Une grâce accordée. Et nous avons dit vraiment, la grâce est un pouvoir. C'est la puissance de Dieu. OK? Et cette puissance est communiquée par qui? Par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Il nous communique vraiment ses dons comme puissance de Dieu. OK? Alors, une prophétie, n'oubliez pas, une prophétie, ce n'est pas une prédiction. Une prophétie, ce n'est pas une prédiction. Une prophétie, c'est un message. Une prophétie, c'est un message. C'est une parole. Alors, dans la Bible, il n'y a pas la religion païenne qui annonce vraiment des prédictions. Dans ce message, Dieu peut prédire des choses. Mais la prophétie biblique n'est pas une prédiction. La prophétie biblique, c'est un message. Un message pour changer le comportement de l'homme. Et ce message peut avoir une portée présente, une portée présente et une portée future. C'est ça. Alors ici, une prophétie est un message ou une parole annoncée sous l'inspiration divine pour une situation et une circonstance donnée. Alors, qui veut dire, c'est pas n'importe qui peut prononcer vraiment ce message parce que c'est un message inspiré. La prophétie est une parole aussi particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise pour des circonstances bien déterminées. Par exemple, le peuple de Dieu, les jeunes, ont des difficultés, ont problèmes, ont difficultés vraiment pour comprendre les choses. L'Esprit de Dieu peut communiquer un message pour des situations bien déterminées à Milka. Pour dire, écoutez bien, voilà, eh bien, ce que Dieu veut nous dire. Et l'Esprit de Dieu va guider Milka aussi à trouver vraiment un passage de la Bible pour dire exactement ce qu'on ne pouvait pas comprendre. Maintenant, les dons de prophétie que Dieu a donné à Milka nous permet de mieux comprendre la situation. Qui veut dire le don de prophétie, c'est agir pour une situation pour mieux comprendre la volonté de Dieu. Alors c'est pour ça vraiment le don de prophétie est une parole particulière inspirée par Dieu, donnée à une personne précise pour des circonstances bien déterminées. Le don de prophétie est le ministère de la parole inspirée par Dieu pour des situations particulières. Par exemple, ceux qui ont le don de prophétie ne sont pas investis d'un ministère prophétique officiel. Alors il y a une différence entre le prophète de la Bible et celui qui a le don de prophétie. Quelle différence? Il y a une différence entre les prophètes de la Bible et celui qui reçoit le don de prophétie. Le même esprit, mais la fonction est différente. Par exemple, le prophète de la Bible est là pour écrire la volonté de Dieu qui doit caractériser la norme, la conduite qui doit guider la conduite du peuple de Dieu. Qui veut dire c'est l'autorité. On ne peut pas changer ça. Tandis que le don des prophéties, c'est agir pour nous aider à comprendre ce que les prophètes écrivent dans la Bible. Tout à l'heure, nous allons... vous avez peut-être vraiment... Je vais vous expliquer ça. Par exemple, les 66 livres de la Bible sont clos. C'est fini, c'est fermé. Il n'y aura pas d'autres prophètes pour continuer la Bible. C'est clos. Parce que normalement, c'est déterminé dans la volonté de Dieu. C'est la grande révélation du plan du salut qui est révélée dans les 66 livres. Le don des prophéties n'ajoute pas, n'a pas une révélation différente. Le don des prophéties est là pour pouvoir attirer les croyants vers les 66 livres qui contiennent la vérité pour pouvoir nous aider. Parce que les 66 livres constituent la bibliothèque divine. Aucun, même si on fait un doctorat, on n'arrive jamais à ramasser toutes les connaissances qui se trouvent dans les 66 livres. Impossible. Si quelqu'un vous dit vraiment, je fais un doctorat, ou bien vraiment, donc, je fais vraiment plusieurs doctorats, arrive à épuiser la Bible, impossible. Impossible. Même ceux qui étudient la théologie, chaque jour, en lisant la Bible, en lisant, en faisant la méditation, tu découvres vraiment des choses que tu n'as jamais vues. C'est la source intéressable. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce qu'il y a une différence entre le ministère prophétique de la Bible et le don de prophétie? Oui? Est-ce qu'il y a une différence? Qui veut m'expliquer cette différence? Quelle différence? Oui. Bravo. Parce que normalement, les prophéties bibliques sont fixes. Tandis que le don des prophéties, c'est à travers les âges. Ça se renouvelle. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça va? La différence? Les textes de la Bible, qui veut dire le message de la Bible, la volonté, tous les messages du plan du salut sont fixes. Tandis que le don des prophéties n'est pas fixe. Pour une circonstance donnée, pour l'église de Québec, Dieu peut donner le don des prophéties à Florence pour guider l'église. Parce que l'église s'écarte de la source. Voilà la différence. Donc, nous allons continuer. Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons constaté, est-ce que vous entendez parler vraiment du canon? Que la Bible est canonisée. Hein? Qui peut m'expliquer vraiment c'est quoi? Canonisé. Est-ce que vous avez ça déjà?
Les livres apocryphes sont mis de côté comme Tobie, Maccabée et...
Oui, mais canonisé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Fermé, scellé.
Bon, on va l'étudier, c'est ça. Ok, vous allez ça. Voilà, écoutez bien. Là, ici... Eh bien, quand on regarde vraiment donc, le ministère prophétique officiel, l'écrit de la Bible n'est pas dans les canons. Ok? Par exemple, le don de prophétie n'est pas dans les canons. Par exemple, les écrits de Lenoir ne sont pas canonisés. Parce que les dons de prophétie, les messages des dons de prophétie ne doivent pas être canonisés. C'est pour une circonstance. Ça va? Tandis que la prophétie biblique, les prophéties bibliques sont canonisées. Nous allons expliquer. Le mot canon, qu'est-ce que ça signifie? Ça vient de canon et signifie, eh bien, roseau, mesure, canne. Parce que autrefois, c'est avec un roseau qu'on mesure. Mathématiquement. On prend vraiment tout ça, etc. Dans la Bible, vous allez voir ça. Et dans l'Antiquité, le roseau était un instrument de mesure. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on canonise la Bible est là pour mesurer ma vie spirituelle, votre vie spirituelle, la vie de quiconque. Appliqué à la parole de Dieu, le mot canon désigne la norme à laquelle tout doit se conformer, tout enseignement et la vie du peuple de Dieu. Ce qui veut dire, toutes les prophéties, tous les dons des prophéties doivent être analysés à la lumière de la Bible. à la lumière de la Bible, tous les rêves qu'on fait, tous les songes qu'on a, on doit analyser tout à la lumière de la Bible. Alors, voilà les textes. Vous connaissez vraiment les textes de Deutéronome 18? Texte de Deutéronome 18, non, 13 de préférence. Excusez-moi, corrigez ça pour moi. Je crois que je vais corriger ça tout de suite. Et c'est Deutéronome 13. Deutéronome 13, vous avez ça. Et l'autre, Deutéronome 18. Dans Deutéronome 18, on a dit comment analyser les rêves des prophètes, les messages des prophètes. Parce que Satan peut jouer avec nos sentiments. Satan peut nous donner vraiment des rêves. Mais cependant, il faut analyser tout rêve, tous les rêves, il faut les analyser à partir vraiment de la Bible. Est-ce que quelqu'un rapidement peut lire vraiment Deutéronome 13, verset 1 à 5?
Deutéronome. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il voulut se détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu.
Voilà que Dieu lui-même a donné un critère pour analyser toutes les visions des prophètes ou bien des songeurs. Il faut qu'il y ait l'accomplissement, et c'est par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Plus tard, il y a un prophète qui a donné un critère aussi, c'est Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. En tant que jeune, je vais vous poser une question. Lorsqu'on récite ce passage, qu'est-ce que ce passage veut dire pour nous? À la loi et au témoignage. Hein? Selon la parole de Dieu. Mais il y a deux types d'expressions là. Il y a la loi et témoignage. Que désigne la loi pour vous? Non. Regardez, dans la... Oui, allez. Les gens comme Moïse, allez Florence, ça c'est Florence. Ok, écoutez bien, dans les textes originaux, c'est le mot Torah. La Torah représente la première partie de la Bible, les cinq premiers livres de Moïse, s'appelle Torah. Le mot Torah, que, bon, c'est pas juste quand même, donc, dans la langue française, on a loi, mais c'est plutôt, ça signifie chemin, révélation. C'est l'ensemble de la révélation des cinq premiers livres de Moïse, c'est un code. Qui veut dire vraiment qu'il faut mesurer les prophètes. Le témoignage désigne tous les écrits des prophètes. De Josué à Malachie. Ça, c'est vraiment, c'est le témoignage parce que les prophètes, ce sont des témoins de Dieu. Ils sont des témoins de Dieu parce qu'ils ont reçu la vision. Ils ont vu la scène de la situation. Maintenant, après ça, ils ont écrit ça pour apporter vraiment au peuple. Parce qu'ils sont témoins de Dieu. Alors, les écrits s'appellent témoignages. Alors, témoignage, d'où l'expression la loi et les prophètes. Alors, il dit vraiment à la loi et au témoignage, qui veut dire à l'ensemble de la révélation que Dieu a donnée à Moïse, et ensuite aux visions données au message par les prophètes. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de salut. Ça va? Témoignage, c'est le témoignage, ce sont les écrits des prophètes de Josué à Malachie. Parce qu'à l'époque, vraiment, c'était ce livre-là qui existe. Est-ce que vous êtes là?
Ouais.
Ok. Alors, qui veut dire, ce texte-là, très souvent, nous, les adventistes, on cite ce texte-là pour coincer les protestants, mais mal cité parfois. Parfois, on réduit la loi aux 10 commandements. Pour dire les protestants, vous n'observez pas vraiment les 10 commandements. Non, c'est l'ensemble des écrits de Moïse, qui veut dire de Genèse, eh bien, à Deutéronome, ça constituait la loi, la Torah. Et ensuite, de Josué, et à Malachie constituent vraiment les prophètes. Les prophètes, étant donné que ce sont des témoins de Dieu, eh bien, ils apportent le témoignage. Est-ce que c'est clair? Ok, on continue. Donc, ici, en l'an 90, pour canoniser la Bible, on a passé 40 ans. 40 ans pour canoniser la Bible. Qui veut dire étudier point par point, est-ce qu'il y a des contradictions par rapport aux écrits de Moïse? Parce que les écrits de Moïse sont constitués la pierre, eh bien, qui examine, eh bien, chaque texte, etc. Et plus tard, on a canonisé aussi 27 livres. Parce que l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, combien de livres qu'on a trouvé? Je vais vous poser vraiment cette question-là. Ce n'est pas pour vous commencer, pour vous aider. Par exemple, les livres canonisés dans la Bible, combien de livres dans l'Ancien Testament? Combien de livres? Hein? 39, etc. Bon, c'est vrai. Les 39 livres. Par exemple, il y a Ecclésiastique, Tobie, tout ça, etc. N'existait pas. C'est à partir du 3e siècle, 4e siècle, qu'on a écrit vraiment ces livres-là. Et ces livres-là ne sont pas inspirés. En tant que tel, on a rejeté 39 livres. Et dans le Nouveau Testament, il y a d'autres livres qui ont été écrits. On a trouvé combien? 27 livres. Les 27 livres et plus 39, ça donne 66 livres canonisés. Plus tard, l'Église catholique, eh bien, a ajouté, eh bien, Maccabée, Tob, tout ça, etc. Ça, c'est un autre sujet d'étude. Alors, donc, les 39 livres de la Bible hébraïque et les 27 livres du Nouveau Testament sont la règle de conduite. Tous les rêves, le don de prophétie doit être analysé à partir des 66 livres. Ça va? Mais en Romains 12, verset 6, Paul recommande que le don de prophétie doit être exercé selon l'analogie de la foi. Vous allez lire vraiment le texte pour moi, Milka. Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Paul veut dire? Celui qui a le don de prophétie. C'est pour ça, vraiment, écoutez bien, ce texte-là montre vraiment qu'il y a une différence entre le don de prophétie et les écrits de la Bible. C'est pas vrai? Parce que le don de prophétie doit être étudié, exercé selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça signifie? En rapport avec la foi. L'analogie signifie un rapport avec la foi. S'il n'y a pas un lien, le mot foi ici, que signifie le mot foi? Que désigne le mot foi? Hein? Que signifie le mot foi ici? Est-ce que c'est la foi que j'ai, que Aboubakar a, etc.? Est-ce que ça, Paul, est-ce que ça, c'est ce que Paul veut dire? Que le don de prophétie doit être exercé, eh bien, à l'analogie de la foi. De quelle foi s'agit-il ici? Confiance dans la parole de Dieu? Confiance dans les écrits? Paul a utilisé le mot foi pour désigner l'ensemble des écrits. Ce n'est pas confiance, c'est plutôt l'ensemble. Nous allons lire ça vraiment dans Jude. Dans Jude verset 3. Lisez ça, Jude verset 3. Jude verset 3. Regarde bien, il dit pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il parle vraiment des écrits de la Bible. Une fois la révélation, l'ensemble de la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament donnée, transmise. La transmission une fois pour toutes, qui veut dire on ne peut rien changer. Les écrits de la Bible, ce sont les fondateurs de notre vie spirituelle. On ne peut rien changer. Ça va? On ne peut rien changer dans ça. Alors ici, vraiment, la foi, ici, l'apôtre Paul utilise pour représenter l'ensemble de la révélation de la parole de Dieu. Une foi transmise. Alors, qui veut dire cette foi transmise, cette révélation qui est transmise, le don de prophétie doit être exercé à la logique de l'ensemble des révélations trouvées dans la Bible. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ok. Bon, donc, on va voir. Les écrits de la Bible sont transmis au peuple de Dieu une fois pour toutes. Il n'y aura plus d'autres révélations qu'on peut ajouter aux écrits de la Bible. On ne peut pas ajouter d'autres écrits aux révélations de la Bible. Le don de prophétie n'est pas une révélation qu'on peut ajouter à la Bible, mais c'est une révélation venant de Dieu dans le but de guider dans des situations particulières. Alors, qui veut dire, je fais vraiment cette insistance, c'est très important. Le don de prophétie doit être exercé en accord avec ce qui est écrit dans la Bible. Nous avons l'exemple vraiment de Hulda. Nous allons faire une expérience pour voir vraiment c'est quoi le don de prophétie, comment agit vraiment quelqu'un qui a le don de prophétie. Donc, dans 2 Rois, rapidement, dans 2 Rois 22, dans 2 Rois 22, la deuxième présentation sera beaucoup plus courte. Et donc, 2 Rois 22, versets 11 à 20. Quelqu'un peut lire ça rapidement pour nous? Aboubacar, tu as quelque chose? Tu veux lire? Alors, il faut identifier le roi, c'est le jeune roi, Josias. Ok, allez.
Et le roi donna cet ordre au sacrificateur, il est déjà à Chicam, fils de Chafan, à Gor, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, à Saja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas mis en pratique tout ce qui nous est écrit.
Regarde bien, le livre de la loi, soulignez, le livre de la loi fait référence à quel livre?
Oui.
Bravo. Aux 5 premiers livres de Moïse. Parce que la Torah, le livre de la Torah, c'est l'autorité. Jusqu'à présent, les Juifs parlent de la Torah. Parce que je vais vous dire quand même, en tant qu'adventiste, vous savez très bien, toute la vérité que vous avez trouvée dans les autres livres, de Josué jusqu'à Apocalypse, se trouve dans la Torah. Tous les plans du salut, là, tous les plans de la rédemption, la mort de Jésus-Christ, la résurrection, sa venue, etc. Et je peux vous faire vraiment des démonstrations, l'incarnation à travers vraiment les bûchons ardents, c'est l'incarnation. Que le Dieu de gloire va venir vraiment dans un corps humain sans pouvoir détruire. C'est ça vraiment l'arbre, le buisson ardent qui a pris le feu, mais qui ne brûle pas. Alors, tous les plans est là. Toute la vérité est là. Qui veut dire les autres, Josué jusqu'à Apocalypse, c'est pour le développement spirituel. Puisque vraiment les hommes ne restent pas fidèles à Dieu, Dieu a besoin de renouveler, de renouveler, de renouveler. Mais les 5 premiers livres de Moïse, toutes les vérités du plan du salut, de A à Z, vous avez trouvé ça là. Ok, continuez. Alors ici, vraiment, il s'agit vraiment du livre de Moïse à l'époque. Allez. Regarde bien, le don de prophétie. Hulda a le don de prophétie. Alors, j'arrête de temps en temps pour mieux expliquer ça. Eh bien, il dit vraiment, parce que normalement, le roi a envoyé quelqu'un pour consulter Hulda. Pourquoi? Parce que le roi sait vraiment que Hulda possède le don de prophétie. Maintenant, regarde bien ce que Hulda va faire.
Ainsi par l'Éternel, voici, je vais venir faire venir des malheurs sur ce lieu, et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre vers le roi et Judas. Par ceux qui m'ont abandonné et qui les ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter la parfum.
En général, pour couper, pour faire plus court résumé, Hulda a cité Deutéronome 28, les malédictions, les bénédictions. Tu vois, le don de prophétie, elle fait référence tout de suite. Il dit vraiment que tout ce que Dieu a annoncé dans ce livre, si vous ne vous détournez pas vraiment de tous ces péchés-là, eh bien Dieu va accomplir ces choses-là. Ça, le don de prophétie, c'est faire référence, c'est référer quoi? À la parole de Dieu pour pouvoir guider le peuple de Dieu. D'où Dieu a accordé le don de prophétie à son peuple pour faire quoi? Pour les guider, pour l'exhorter et ensuite pour l'édifier et les réconforter. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Eh bien, c'est mieux d'aspirer au don de prophétie. Parce que le don de prophétie, c'est l'édification du peuple de Dieu. L'édification, qui veut dire, c'est une sorte de construction de vie spirituelle. L'esprit de prophétie, c'est la dernière étape qu'on va étudier pour ce séminaire. C'est l'esprit de prophétie qu'on a trouvé dans l'Apocalypse. Alors, selon sa définition, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Dans l'Apocalypse, je vais résumer. Très souvent, on fait croire que le don de prophétie est manifesté seulement chez Ellen White. La manière dont on a expliqué vraiment dans l'Apocalypse, quand on dit le don de prophétie, l'esprit de prophétie. Vous connaissez vraiment ce texte-là? Apocalypse 19, verset 10. Hein? Vous voulez dire ça, Florence? Florence? Hein? Chapitre 19, verset 10. Ok. C'est Florence qui va lire pour ça, pour nous. Regarde bien. L'un dit, celui de tes frères qui a le témoignage de Jésus. Et l'ange a défini le témoignage de Jésus. D'après l'ange, qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Hein? L'esprit de prophétie. Est-ce que Jean avait-il le témoignage de Jésus? Bravo. Ce qui veut dire le témoignage de Jésus, c'est la révélation, eh bien, que Jésus-Christ, que Dieu a communiqué, eh bien, aux apôtres sur Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie aussi a été communiqué à l'apôtre Jean, si vous lisez vraiment dans le texte. Les prophètes sont des agents de la révélation de Dieu. Les prophètes, ce sont des agents de quoi? De la révélation de Dieu. Le rôle des prophètes est de révéler les mystères au sujet de Christ. Au sujet de sa vie, c'est le prophète. Regarde bien donc Ésaïe 53. Vous lisez vraiment abandonné, homme de douleur, tout ça, etc. Alors qu'il veut dire vraiment, eh bien, donc nous présente la vie de Jésus-Christ sur sa résurrection, tout ça, etc. Et dans Romains 16 aussi, on parle vraiment de ça. En d'autres mots, les prophètes de la Bible sont des témoins de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Les prophètes de la Bible, ce sont des témoin de Dieu, il possède eh bien le témoignage de Jésus eh bien qu'il a communiqué par des visions. L'apôtre Jean avait le témoignage de Jésus parce qu'il lui a été communiqué par la vision. Nous pouvons lire donc Apocalypse 1er verset 2. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Apocalypse 1er verset 2. Voilà. Jean a attesté, celui qui a attesté, quoi? Le témoignage de Jésus, la parole de Dieu. Écoutez bien, en faisant la lecture, on voit vraiment, Jean a été persécuté, exilé à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. J'aimerais quand même, en tant que jeune, avant de quitter ce séminaire, quand même que vous sortiez avec quelque chose, une différence. C'est pas lire, répéter les choses, et puis ensuite, on ne comprend rien, on dit Amen. Mais regarde bien, dans l'Apocalypse, vous lisez vraiment que Jean a été, le texte verset 2 dit, c'est lui qui a attesté, c'est et la parole de Dieu. Quelle différence? Quelle différence, mes garçons, mes filles? Quelle différence? parole de Dieu et témoignage de Jésus. Qui peut? Osez. Je vais vous donner quelque chose pour ça. Allez.
La parole de Dieu, c'était dans tout l'Ancien Testament. Le témoignage, c'est toutes les lettres qui avaient écrit, tout ce qui commençait à être écrit dans le Nouveau Testament.
La parole, c'est l'ensemble de la parole de Dieu.
Bravo. L'ensemble de la révélation. Jésus. Non, Jésus. Regarde bien, effectivement, le témoignage de Jésus est axé sur la mort et sa résurrection. Pourquoi Jean a été expulsé? Parce qu'il parlait vraiment de la parole de Dieu et ensuite présentait que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alors, les Romains ne voulaient pas accepter ça. Et c'est pour ça, vraiment, les écrits de Lenoy, regarde bien les écrits de Lenoy, passent vraiment, le cœur même des écrits de Lenoy, c'est Jésus. Hein? C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus, sa mort, sa naissance, sa mort, son ministère. Son ministère, c'est centré, le témoignage de Jésus est centré sur quoi? Sur Jésus, la révélation spéciale sur Jésus. Qui veut dire vraiment, le témoignage de Jésus, eh bien, révèle les mystères autour de Jésus. Son incarnation. Son ministère. Sa personne. Bravo. C'est pourquoi vraiment la différence. Par exemple, regardez l'ensemble des écrits qui parlent vraiment du plan du salut, etc. Mais à un moment donné, il y a un message spécifique sur Jésus. Jésus qui parle vraiment de ça, de son incarnation, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son retour. C'est ça le témoignage de Jésus. Alors les apôtres, quand Paul dit vraiment, si ce n'est, je n'ai une chose que je vais prêcher, Christ crucifié et ressuscité. Alors, donc, regarde bien, le reste de la... Regarde bien, Jean ne dit pas qu'il était le dernier prophète qui avait le témoignage de Jésus. Est-ce que Jean a dit ça dans l'Apocalypse? Non. Mais Jean dit aussi le reste de la postérité de la femme, là aussi. Vous connaissez, d'après le livre de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus est la révélation qui distinguera le peuple de Dieu de la fin des temps des adeptes de Babylone. Qu'est-ce qui fait la différence entre adventistes et les autres religions? C'est le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Lisez ça, vraiment, donc dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Vous voulez lire? Non? Ok, tu n'as pas de bête? Ok. Ok, regarde bien. Là, c'est très important. Il y a une subtilité. Jean était un juif. Quand il garde les commandements de Dieu, il fait référence à l'Ancien Testament. À l'ensemble. Surtout l'insistance. Quand il parle vraiment du témoignage de Jésus-Christ, il parle du ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient avec la grâce. Il veut dire qu'il y a deux caractéristiques du peuple de Dieu. L'ensemble de l'Ancien Testament, l'obéissance au commandement de Dieu, et ensuite, être en possession du témoignage de Jésus. Être en possession du témoignage de Jésus, c'est être en possession de ce message de grâce, que Jésus-Christ est venu, il est incarné. Et ensuite, il a exercé un ministère sur la terre. Il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Voilà qui fait vraiment cette différence. Par exemple, les juifs n'ont pas cette caractéristique, parce que les juifs cantonnent seulement dans l'Ancien Testament, dans l'observation de la loi, en observant les sabbats. Et plus tard, nous allons voir vraiment le lien qui existe entre les sanctuaires et ensuite les sabbats. Subtilité. Et qui nous empêche. Pourquoi vraiment il y a vraiment cette déception-là? Vous allez voir dans les deuxièmes séminaires. Mais pour ce premier, nous avons constaté qu'il y a une différence entre le don de prophétie et les écrits des prophètes de la Bible. Est-ce que vous avez saisi ça? La différence, qu'on ne peut pas changer les écrits des prophètes. On ne peut pas continuer avec la Bible. Mais Dieu donne des visions, des songes. Quand son peuple est égaré, quand son peuple ne comprend pas grand-chose, eh bien Dieu accorde des dons de prophétie. Le don de prophétie n'est pas limité seulement à Ellen White. Ellen White, tout à l'heure nous allons voir, Ellen White a joué un rôle important. Mais jusqu'à présent, le don de prophétie continue parmi le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Non, et pour la question du retour de Jésus-Christ est vague pour les autres religions chrétiennes. Et ensuite, pour la résurrection de Jésus-Christ, un peu partout dans le monde protestant aussi, il y a des conceptions erronées. Ils n'ont pas reçu vraiment cette lumière. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous allons voir vraiment le message adventiste, qu'est-ce qui fait vraiment là cette différence? C'est grâce au don des prophéties qui agit parmi. Parce que sinon, vraiment, l'Église adventiste allait être comme les autres religions. Nous avons une précision grâce au don des prophéties. Parce que ce n'est pas souvent les écrits de la Bible. Regarde bien, on peut faire vraiment un test. Bien sûr, on est né adventiste, on est tout ça, etc. Il y a bien des choses. Parfois, on répète sans cesse sans connaître le sens. Et à un moment donné, on devient... Alors, tu prends ça pour partie. Mais tu n'étais pas là. Ok, tu parles. Ok, alors, qui veut dire, le deuxième séminaire, vous allez voir la cause. Il y a deux causes, deux éléments qui ont provoqué la déception dans le mouvement adventiste. Vous allez voir pourquoi vraiment cette division, tout ça, etc. Et ensuite, le don de prophétie qui est accordé à une première personne, un pasteur noir américain. Et donc, le don de prophétie a été accordé. Et nous allons parler de ça donc dans le deuxième séminaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Dans l'Apocalypse 17, où l'apôtre Jean fait un enfin sur le reste, c'est ceux qui. La carte ici, le reste, qui garde le témoin de Jésus et le commandement de Dieu. Par rapport au commandement de Dieu, vous avez dit qu'il parlait plus précisément de la Torah.
Les commandements. Non, c'est-à-dire les commandements, ça fait référence au 10 commandements ici dans Jean.
D'accord, c'est bon.
Ok, c'est bon. Ok. Et le reste aussi, quand on dit reste, qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que jeune adventiste? Parce que tu sais vraiment, dans nos églises, on répète, on cite des textes, mais on ne passe pas du temps pour pouvoir expliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le mot reste est utilisé? Quel prophète qui a développé cette théologie du reste? C'est le prophète Ésaïe. Le mot reste signifie rescapé de la tragédie. Les rescapés de la tragédie. Il y a une tragédie. Quelle tragédie? La tragédie du péché, l'apostasie. Il y a un reste. Rescapé. À l'époque des gens, c'était l'apostasie. L'Église est tombée dans l'apostasie. Et puis Jean a vu dans cette vision, il y a un reste de tous les âges. Et ce reste-là n'est pas encore complètement dans l'Église adventiste. L'Église adventiste, c'est le reste visible. Mais le reste invisible est encore à Babylone. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, sortez au milieu d'elle, mon peuple. Bon, il y a tellement de choses à dire, écoutez bien. Donc c'est vraiment... Bon, écoutez bien, est-ce que vous allez venir donc suivre vraiment le deuxième séminaire? Ça va? Est-ce que ça vous va vraiment ou bien c'est...
J'ai une question.
Oui, ok.
Les prophètes dans l'Ancien Testament, à certains moments, ils recevaient des messages de la part de Dieu. Mais est-ce qu'ils ne recevaient pas aussi des messages qui étaient comme il fallait qu'ils aient le discernement pour voir si ça venait de Dieu? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses
Non, dans ce contexte-là, quand on reçoit vraiment la vision, on est tombé en extase d'inspiration. Après ça, le message peut être contaminé, le prophète peut abandonner. Dans le cas de Balaam, Balaam avait abandonné, mais c'est après. Ils avaient reçu vraiment le message. Il a communiqué le message, mais après ça, il voulait faire à sa tête. C'est ce qu'on, d'où les faux prophètes. Les faux prophètes, c'était des vrais prophètes, mais qui ont mal utilisé le message que Dieu a donné. Non, parce que normalement c'est pas comme ça, parce que c'est un regard, ou bien c'est un songe, il y a des critères, c'est le peuple, alors le prophète en tant que tel est possédé de Dieu. Maintenant le message qui va être livré, ou bien il refuse, ou bien il contamine le message, c'est pas même lui. Donc c'est pourquoi on en parle vraiment des faux prophètes, les faux prophètes. Mais maintenant le prophète reçoit, eh bien, la vision de Dieu. Alors, lui-même, le plus souvent, il ne comprend pas le message. Tous les prophètes qui ont vraiment des visions ne comprennent pas nécessairement le message. Il doit continuer à prier parce que le message ne vient pas de lui. Surtout dans le cas de Jean, dans le cas de Daniel, tous les prophètes de la Bible ne comprenait rien. Moïse ne comprenait pas grand chose. Dieu est obligé vraiment de déléguer un ange interprète. C'est ce qu'on appelle l'ange interprète pour pouvoir expliquer. C'est extraordinaire. Oui, on peut donner. Vous voulez prendre ça maintenant ou bien après? Vous avez d'autres séminaires?
Oui.
Ok. Ok. Mais vous allez manquer la deuxième partie quand même, il y a deux parties. Ok. Il y a la continuité. Bon, je comprends très bien. Donc, Oui. Et c'est ça vraiment qui scandalise vraiment l'Église adventiste. Et on devait, parce qu'on vient de là. Dans le deuxième séminaire, vous allez voir la source même, la fondation de l'Église adventiste. Et nous avons une hypothèque. Nous, les jeunes, surtout l'Internet, etc. Eh bien, donc on accuse toutes sortes de choses. C'est Hélène White qui est la fondatrice de l'Église adventiste, etc. Mais c'est mal expliqué dans nos églises. On ne parle. Oui, c'est ça. Parce que, écoutez bien, quand on n'a pas une fondation, on peut avoir vraiment une spiritualité, connaître les textes de la Bible par cœur, etc. Et c'est là que Satan va nous séduire. Quand on ne connaît pas vraiment notre identité véritable, etc. Et le don des prophéties, vraiment, c'est extraordinaire. Parce que les jeunes doivent comprendre que le don des prophéties ne s'arrête pas à Hélène White. C'est un don accordé à l'Église de Dieu. Oui.
Juste pour aller dans le sens que vous disiez, malheureusement, dans les églises, beaucoup de personnes qui ont des positions, même qu'il y en a des postes, il y en a qui n'en ont pas, qui ne veulent pas entendre le nom d'Hélène White.
C'est ça. C'est parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas même pas les églises.
Ils ne connaissent pas de ça, oui, oui. La Bible seulement.
Il y a un grand problème. C'est bien dommage parce que l'étude n'a pas été. Une étude sérieuse n'est jamais faite. Par exemple, ce cours-là, ce séminaire, c'est un cours universitaire.
Mais moi, je vais répondre sur les deux questions. Je ne sais pas si vous allez écouter maintenant ou plus tard. C'est toujours deux questions qui sont toujours dans ma tête. On n'arrive jamais à m'expliquer vraiment. Mais là, je commence à faire des recherches.
Oui. Oui.
Pourquoi admettons que dans un de ses livres, elle dit qu'on peut comme fêter Noël et toutes ces affaires-là?
Hélène White n'a pas dit de fêter la Noël. Vraiment, écoutez bien, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a des compilations. Presque la majorité des livres d'Hélène White, ce sont des compilations. On rassemble vraiment des textes, parfois hors contexte. Okay. Vous allez lire hors contexte. Maintenant, il faut, c'est pourquoi vraiment il doit y avoir une ligne à suivre, une étude qui doit être faite pour situer chaque texte, comme la Bible, dans son contexte. Ellen White n'a pas dit vraiment de fêter la Noël. Ellen White veut parler d'une réalité aux États-Unis. Dans l'esprit des protestants, d'ailleurs, écoutez bien, même avant l'Église catholique, c'est le protestantisme qui a célébré beaucoup la nativité. OK? Maintenant, Ellen White dit, étant donné que nous vivons en Amérique du Nord, surtout les États-Unis d'Amérique, elle parlait pour les États-Unis d'Amérique, il dit, ce n'est pas un péché de dresser un arbre de Noël dans une église dans le but de ramasser des fonds pour aider les pauvres dans les pays où il y a vraiment tout ça, etc. Parce que pour cet esprit-là, dans l'esprit des gens, qui veut dire Jésus-Christ est né. Et nous savons très bien Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né ou non? Incarné. OK? La nativité. Nous devons célébrer la nativité. Nous pouvons avoir un problème avec la date. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons avoir un problème avec la date du 25 décembre. Mais l'incarnation de Jésus est réelle. Oui ou non? Ellen White dit, les adventistes, même dans un quartier, c'est difficile d'avoir accès. Puisque pendant la fête de Noël, pendant cette date-là, les gens sont beaucoup plus ouverts à entendre une parole de Dieu. Il dit, si on fait vraiment un arbre de Noël pour inviter ces gens-là à venir, et à ce moment-là, durant cette célébration, on va expliquer que la date de 25 décembre, bibliquement parlant, il n'y a pas, cette date-là ne correspond pas, mais cependant Jésus-Christ est venu. Je vais dire quelque chose parce que j'ai fait ces messages-là à Saint-Léonard pour les jeunes, etc. Il était content. Effectivement, le 25 décembre, il y avait un événement en décembre. Jésus-Christ a été conçu en décembre, d'après les textes de Luc. Parce que Élisabeth a été enceinte à la fin du mois de juin, début juillet. Et l'ange dit vraiment, 6 mois plus tard, il est allé voir Marie pour annoncer la conception de Jésus. Comptez juillet à décembre, c'est 6 mois. Jésus-Christ n'est pas né en décembre, mais Jésus-Christ a été conçu en décembre. Et c'est, je vais vous dire quelque chose dans la Bible, des choses qu'on n'a pas étudiées, qu'on n'a pas pris le temps d'étudier avec vous. Et écoutez bien, Jésus-Christ a révélé sa divinité pendant cette fête dédicace, chapitre 10. La fête dédicace, c'est la fête juive pendant au mois de décembre, le 25 décembre. Jésus-Christ a annoncé sa divinité en décembre. Si on prend décembre, Jésus-Christ a été conçu. En septembre, Marie a mis au monde Jésus. Bon, ça, ça, écoutez.
Hein? Mais ils ne sont pas en train de fêter la conception de Jésus.
Là, nous, les adventistes, nous devons profiter. Ce n'est pas un péché de rassembler même les gens, les amis. Si on est solide dans la Bible, pour dire que c'est la conception de Jésus, on a fêté un mauvais événement.